Hi. How you doing? This is Carolyn Mark. You're listening to CHOQ from Montreal.
Et si tu viens de garder au savoir?
Bye.
Miles Davis pour débuter du Vanguard au Savoie cette semaine. Bonsoir, mon nom est Maxime Bouchard, en poste pour la 8e émission de la 18e session. Miles Davis pour débuter le tout sur un très bon album, bien sûr. Ils sont tous ou presque sur Quintet et Sextet, paru en 1955 sur Original Jazz Classics Prestige. On retrouvait Milt Jackson au vibraphone, au piano Ray Bryant, à la contrebasse Percy Heath, à la batterie Art Taylor et Jackie McLean au sax alto. Cette semaine à Du Vanguard au Savoie, c'est un peu comme la semaine passée. Je vais vous résumer l'essentiel de ce qu'on va écouter ensemble et ensuite je vais laisser la place libre à la musique et je vais me rendre tranquillement pas vite à la Salarossa pour le concert de Farmers by Nature, un des bons concerts de la sélection Jazz Free Jazz de cette année. Vraiment une formation toute étoile, un international cast, et ça risque d'être bouillonnant là-bas pour un bon set, ou sans doute deux sets, presque deux heures de bon free jazz. J'en avais passé il y a quelques semaines. On va aussi en profiter pour écouter Roscoe Mitchell and the Note Factory en 2010. Roscoe Mitchell a fait paraître cet album sur ECM. Ça avait été enregistré en 2007 en Allemagne, dans un festival, je crois. C'était à Burgenhausen. On va écouter le titre qui ouvre. C'est une composition, bien entendu. Et il y a des interpolations, il y a de l'improvisation sur commande. C'est Farside Cards et Farside qu'on va écouter sur cet album en deuxième partie d'émission. Aussi, j'ai une entrevue avec Steve Guimond, qui est le directeur artistique du festival Suoni per il Popolo. Une longue entrevue, on a parlé au bureau du Suoni, et c'est une entrevue qu'on va faire passer après ce qu'on va entendre dans les prochains 20 minutes. Une formation que je ne connaissais pas, j'ai découvert, une formation française, c'est Prism. Une formation où au départ c'est un trio, et ils se sont réunis en 2009, ils ont enregistré un concert à l'Opéra de Lyon avec deux invités. Ça donne quelque chose de très hard boppy, contemporain, avec une bonne touche de guitare. Et c'est les deux pièces que je vais passer, c'est les plus rapides, c'est les plus up-tempo, mettons. Et c'est sûr qu'à l'intérieur de ce set, on s'est un peu relâché, dégourdi, on a joué un peu plus mellow, mais ça reste un album qui est très bon à l'oreille. Et si on a envie d'un hard bop récent, c'est Pierre de Bettman au piano, Christophe Wallem à la contrebasse, Benjamin Hancock à la batterie, Benjamin Enoch, Manu Coggia à la guitare et Rosario Giuliani au sax alto. Bonne performance à surveiller de ce musicien très incisif sur le sax alto. C'est le menu de cette semaine. Si vous voulez plus d'informations, des comptes rendus de spectacles, vous pouvez vous rendre sur le blog de Choc FM et aussi sur la page du Suoni per il Popolo. Allez voir dans la section blog. Il y a plusieurs collègues de d'autres émissions de radio, de la presse écrite qui vont parfois mettre des comptes rendus, des dessins aussi et même de la bande dessinée qui se retrouve là. C'est un compendium à ce fantastique festival. Je vais aller voir The Thing avec Joe McPhee mercredi, de même que Full Blast. Et ça va compléter la boucle. Ensuite, ça sera la Saint-Jean-Baptiste. Et je serai en poste, oui, la semaine prochaine pour les premières impressions du Festival international de jazz qui va débuter. Marie-Ève Boulanger va venir aussi rapidement nous parler de ce qu'elle va déjà avoir vu. Et c'est à partir de dimanche, 10 concerts à voir au FIGM. On ne manquera pas de notes dans nos oreilles, pantoute. Et c'est ça. Et selon le temps qui va nous rester, ça va être The Dead Kenny G's. Ça, c'est une formation de free rock, jazz, punk un peu. Et c'est bien un petit pied de nez un peu à Kenny G qui fait dans le jazz soft, le jazz d'ascenseur. Et c'est la formation de Skerrick, de Brad Hauser et de Mike Dillon. Ils ont fait paraître un album qui se nomme Operation Long Leech en 2011 sur Royal Potato Family. Et nous allons écouter quelques extraits de cet album ensemble. Roscoe Mitchell et The Note Factory. Et bien rapidement, c'est Corey Walks, Greg Taborn, Vijay Iyer, Sheribu Shahid, Harrison Bankhead, Tony Tabal et Vincent Davis. Et c'est une longue pièce de 30 minutes. Mais bon, on y va avec Prism. Ensuite, c'est l'entrevue du Roscoe Mitchell et The Dead Kenny G's. Bonne écoute. Thank you.
Alors, Maxime Bouchard, en compagnie de Steve Guimond, qui est directeur artistique du Suoni Peril Popolo. Monsieur Guimond, nous en sommes, on pourrait dire, à la mi-parcours de l'édition 2011 du festival. Comment ça se passe jusqu'à maintenant?
On dirait qu'on est presque fini. En regardant mon cadran, il nous reste une semaine, donc on est presque là. Jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Les foules sont nombreuses pour la plupart des shows. Il y a toujours quelque chose. Qu'il y a moins de personnes qu'on a prévu, mais quand même cette année, c'est une année assez forte, surtout aux deux salles, aux trois salles, parce qu'on utilise le moteur aussi pour quelque chose. Jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé, des prestations incroyables. On pense à Omar Suleiman, la soirée d'hommage à Bernard Herrmann, Sound of Session avec en première partie Steemon, du monde qui parle encore de ces shows-là. Alors, c'est toujours cool de voir. Avec un peu de recul, les shows qui ont marqué certaines personnes, puis il y en a toujours quelques-uns qui sortent de l'ombre un peu alors.
Parlant de la programmation, comment vous faites pour en arriver à un constat final, pour arriver avec une programmation finale dans les différentes déclamations du festival, déclinaisons du festival, car il y a quand même du hard, il y a du free jazz, l'expérimental. Comment vous construisez ça? Est-ce que ça se fait sur toute l'année ou c'est de longue date avec les contacts que vous avez?
Il n'y a pas de formule magique. Honnêtement, je ne sais pas même si on pourrait travailler avec des structures rigides pour la programmation, surtout pour le festival. Mais vu qu'on travaille à l'année longue avec la programmation hors saison, ça nous donne l'occasion de faire des très bons contacts avec ou des promoteurs ou les artistes eux-mêmes. Fait que si on a des idées pour des nouveaux projets, par exemple, avec des artistes avec qui on a déjà travaillé, c'est très facile de leur approcher. Alors, on a cet avantage, mais par exemple, pour la plupart des artistes free jazz, eux autres, ils travaillent tellement à l'avance avec leur propre horaire que je pourrais donner, comme cette année, l'exemple de The Thing et Atomic. On savait depuis un an et demi ou même presque deux ans qu'ils venaient parce que Paul Nielsen Love, le leader des bands, c'est comme ça qu'il travaille. Fait que lui, il sait, il va être en Amérique du Nord à ce point-ci. Alors ça nous donne l'occasion de travailler autour de leur horaire aussi. Mais il y a d'autres shows qu'ils ont été bookés comme deux mois avant le festival. Alors il y a vraiment pas de structure. Ce qu'on fait surtout, c'est de nous assurer que tous les genres musicaux qui tombent sous la bannière du Suoni sont représentés. Alors, c'est plus important. Alors, il faut prendre soin, par exemple, de ne pas booker 15 shows free jazz. Alors, on essaie de garder ça assez flexible en termes de qu'est-ce qu'on entend.
C'est la 11e année en 2011. Pouvez-vous me parler un peu de la genèse de ce festival? Comment c'est né? Qui est arrivé avec cette idée-là? Comment ça s'est développé? Et comment ça a progressé au cours des années depuis la dernière décennie?
Mais moi, comme je l'ai dit, c'est notre 11e édition. Moi, personnellement, c'est la 6e, donc je suis impliqué comme directeur artistique. Et ça, c'est plus un titre parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous aide en termes de la programmation et qui nous donne des idées à chaque année. D'autres artistes, des étiquettes de disques, des bookers, etc., des magasins de disques à Montréal. Alors, on est très bien connectés aussi dans notre petit réseau à Montréal. Mais le festival elle-même a été fondé la même année que la Casa del Popolo a été fondée. Alors, les deux ont pris naissance en l'année 2000 et c'est à cause de deux personnes, c'est les fondateurs du Festival de la Casa, c'est Mauro Pesenti et Kiva, son partenaire. C'était leur idée de en premier lieu, fonder la Casa. Musique, bouffe. Et ensuite, le festival, parce que dans le temps, dans l'an 2000, il y avait un trou dans ces domaines musicaux qu'on explore ou qu'on aime, comme le free jazz, musique plus expérimentale, électronique, etc., etc. Alors, c'était vraiment grâce à eux que le festival a commencé, et surtout pour les deux ou trois premières années, parce que c'est eux, honnêtement, qui payaient pour le festival de leur poche. Alors, avec le succès des premières années, parce qu'ils ont vu qu'il y avait une demande, ils ont pu s'établir un peu en termes sur le côté financier, en termes d'avoir des subventions et aussi d'avoir des employés pour travailler, pas non juste au festival, mais aussi à la Casa et après la Sala Rosa qui est née 2 ans après la Casa del Popolo. Alors, avec le succès et un peu plus d'argent qui rentrait, ils ont plus fait rentrer du monde pour s'assurer que les salles et le festival étaient sur des pieds fermes essentiellement. Alors, 11 ans plus tard, on est au point où est-ce qu'on a quoi? On va dire 2 ou 3 employés qui travaillent directement dans le festival en termes de la programmation, les subventions. On a quelqu'un qui cherche des sous pour nous. Qui est très important parce qu'il faut avoir quelqu'un honnêtement qui est là à l'année longue pour bâtir ces relations. Puis 10 ans plus tard, on est au point où est-ce qu'on a commencé, on avait 0 et ce point-ci, les subventions peut-être compte pour la moitié de notre budget. Alors, c'est quelqu'un de très important. Et on a pu aussi nous établir dans les yeux de ces subventionnaires que on est ici pour rester et qu'on est un festival important.
En effet, très important parce que vous couvrez un secteur qui n'était pas couvert, je suppose, au moment où ça a été fondé. Des secteurs, surtout dans, ben moi je suis plus intéressé dans le free jazz, des secteurs que le Festival international de jazz semble avoir délaissé, peut-être parce que c'est des salles qui sont peut-être plus difficiles à remplir, mais que pour vous c'est peut-être un peu plus facile vu la grosseur des salles et aussi le public qui revient. Quand je pense que pour venir au festival depuis déjà 5 ans, vous avez un public très très, très fidèle.
Oui. Mais c'est ça, mais pour nous, c'est vraiment un boni le fait que le Festival de jazz, ils ont lâché leur série créative. Il y a quoi, je ne sais pas, 3 ou 4 ans, 5 ans, ils avaient cette série-là programmée à l'intérieur dans le festival, mais ils l'ont lâché. On voit cette année, il y a deux artistes récemment qui ont joué cette série Atomic et Satoko Fuji qui était partie du série créative, mais si le festival ne les veut pas, on va certainement les prendre. Alors pour nous, c'est très facile de dire oui. Puis même, je sais que le Festival de jazz avait l'option de les prendre cette année, puis ils ont dit non. Alors, parce qu'on travaille avec d'autres festivals, parce que Atomic vont jouer à Ottawa, qui font partie de ce réseau canadien, le Festival de jazz. Ils vont jouer, Peter Bratzman joue à Vancouver. Alors, ils ont eu la chance, mais ils ont dit non. Mais c'est très facile de voir en quelle direction le Festival de jazz s'en va. Alors, pour nous, c'est peut-être pas le jazz le plus free, mais c'est le jazz très contemporain qui est excellent. Et quand on pense à Atomic, c'est vraiment comme, on va dire, c'est la crème de la jazz européenne contemporaine, mais quand même, pendant son offre de batteur de Atomic, le soir avant avec The Thing, c'est vraiment, c'est plus free, c'est plus rock and roll. Alors, c'est la musique qui reflète nos amours et en même temps, c'est nos amis, puis alors, c'est très facile pour nous. Puis en même temps, je pense que ça nous donne un peu de cachet parce que peut-être quelqu'un qui aurait vu Atomic il y a 5 ans au Festival de jazz, ils vont revenir peut-être pour la première fois, puis on va voir qu'est-ce qui se passe dans nos salles. Et je pense aussi que c'est les meilleures salles pour voir ces artistes en termes de l'ambiance et de l'atmosphère dans les salles.
C'est beaucoup plus intimiste. Il y a un rapport qui est beaucoup plus proche entre le public et les artistes. Il n'y a pas un genre de quatrième mur qui fait en sorte qu'on sent ou ce qui est une dimension où, bon, l'artiste sur un piédestal, en quelque sorte, ou qui est très, très loin de nous, mais c'est ce que j'aime aussi dans ces salles-là, c'est la proximité. On peut, à la limite, aller parler avec les musiciens si on le désire.
Ils sont tous là, exactement. Oui, ils sont pas, il y a pas une annonce publicitaire avant leur show pour je ne sais pas pourquoi. Et c'est vraiment, c'est... Parce que je pense que ça nous reflète en termes d'être amateurs de musique. C'est une très petite organisation et notre premier amour, c'est vraiment la musique. C'est pas de vendre de vendre quelque chose. On veut vendre la musique. Et ça reflète aussi le fait que pour la plupart de ces shows, on deal directement avec les artistes. Il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, comme avec Paul Nelson-Nov, on deal directement avec lui. Joe McPhee qui s'en vient, on a voulu avoir un courriel. Puis c'est vraiment... C'est plus personnel et je pense que cela est... Il y a une réflexion dans les concerts aussi parce que, surtout sur le côté jazz, parce que tous ces musiciens, cette année, pour la plupart, ils ont déjà fait des prestations à la salle Rossa, mais dans d'autres formations. Alors, ils nous connaissent, ils connaissent qu'est-ce qui se passe dans les salles. Alors, c'est très familier, c'est très personnel.
Ça fait partie de l'identité, je suppose, du Suoni per il Popolo. Si on pourrait dire en quelques mots l'identité de ce festival-là, on le résumerait de laquelle façon?
L'identité, c'est la musique en premier, et c'est la musique qu'on essaie de garder abordable pour ceux qui veulent prendre des chances. Ça reflète Montréal aussi en termes de c'est pour ça que le festival est au mois de juin, parce que on trouve que c'est toujours le plus beau mois à Montréal. Ça reflète les salles, la Casa et les Salas. C'est vraiment, c'est laid back, c'est relax, c'est Il n'y a rien de corporatif attaché à notre festival. Le monde rentre et c'est la musique qui est là. Il n'y a rien d'autre.
En terminant, perspective d'avenir pour le festival dans, mettons, 5-10 ans, est-ce qu'on pense à long terme à ce point-là ou c'est...
C'est vraiment année en année pour nous. Pour plusieurs raisons, on ne sait jamais qu'est-ce qui se passe dans ce domaine. On dirait que c'est un domaine que... Je pense surtout sur le côté administratif des salles de concert et des lois à Montréal. On ne sait jamais qu'est-ce qui se passe, mais je pense qu'on est sur un terrain assez stable, mais on n'aime pas penser trop à l'avance, parce qu'en même temps, on est une très petite équipe et on gère les salles à l'année longue. Donc pour nous, c'est vraiment... On dirait comme on pense peut-être 2 ou 3 mois à l'avance. Mais quand même, là, on prend toujours 2 mois de relâche disponible, puis on commence au mois de septembre. Mais quand même, on a déjà des idées pour l'année prochaine. Alors, mais on aimerait être là, parce que je pense qu'on est très fiers de qu'est-ce qu'on a bâti. On a commencé vraiment avec presque rien et on est rendu au point qu'on est un festival qui est reconnu à travers l'Amérique du Nord et même en international, parce que on les voit avec les personnes qui viennent nous voir, les personnes qui nous contactent en termes des artistes qui cherchent à venir jouer. Alors, on est devenu une option très réelle pour beaucoup de monde.
Vous attirez des touristes, vous pensez? Oui, il y a des gens du nord des États-Unis, de l'Est qui viennent ici.
Oui, surtout Toronto, Ontario, Ottawa, Burlington,
Dernière question. Là, c'est vrai, les affiches. Moi, je les collectionne, je les trouve vraiment belles. C'est des sérigraphies. Est-ce que c'est des artistes différents ou c'est toujours la même équipe qui fait ces affiches-là? Parce que c'est des œuvres d'art en tant que telles.
Oui, c'est des œuvres d'art, mais ça a toujours été un aspect, on va dire, très fort du Suoni. On va dire même aussi fort que la programmation, parce que c'est le partenaire de Moho, un des fondateurs qui va, qui est un artiste, et elle qui prend en charge des affiches. Elle ne fait pas tous les affiches, mais c'est elle qui approche des autres sérigraphistes en ville. Mais on travaille avec les mêmes depuis quelques années. Il y a Kiva qui fait la plupart des affiches. Il y a aussi Todd Stewart qui gère une petite compagnie lui-même qui s'appelle Brewery. Série Pop, il y a Nicky Chloé et Aids Wolf. Il y a Catherine McInnes aussi qui travaille à la CASA, qui fait de la sérigraphie. Alors, il y a 4 ou 5 artistes. Billy Mavreyes aussi, qui est un artiste assez reconnu. Alors, on tourne vers des personnes qui font ça professionnellement.
Ben, merci beaucoup, M. Guimond. Puis, bonne continuité pour la semaine qui reste et pour les autres éditions et aussi Suoni à l'année, car il y a beaucoup de spectacles.
Nomade. C'est Nomade.
Oh freedom. Hey freedom. Oh freedom.
Nomade.